Je vais lire dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, des versets 32 à 45. Et c'est à la page 1131 dans les Bibles devant vous. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient effrayés, et ceux qui le suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 avec lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. « Nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le fouetteront et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. » Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » ?»« Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ?»« Nous le pouvons, dirent-ils. » Jésus leur répondit, « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui cela est préparé. » Après avoir entendu cela, les 10 autres commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux que l'on considère comme les chefs des nations dominent sur elles, et que leurs grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce n'est pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur, et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. »
Si quelqu'un veut être grand parmi vous, être grand dans le monde, n'est-ce pas là le souhait profond d'un grand nombre, si ce n'est de tout être humain ? Être grand, être connu, reconnu dans le monde entier, être adulé ou adoré, être le plus riche, le plus beau, le plus puissant, le plus influent, avoir la plus grande maison, la plus belle voiture, avoir des serviteurs à ne plus pouvoir en compter. Être le plus grand. Qui ne s'est jamais imaginé être à la place de Bill Gates, fondateur de Microsoft, ou de Jack Ma, fondateur d'Alibaba? Vous souhaitez être le plus grand parmi les hommes? Ce passage est pour vous. Puisque dans ces versets, Jésus nous indique comment faire pour le devenir. Et nous le verrons, nous est rapporté ici l'essence même du christianisme. Dans ces versets, Jésus présente la raison de sa venue, ainsi que l'état d'esprit qui devrait caractériser celui qui marche à sa suite. Si quelqu'un veut être le plus grand. Avant de regarder à la demande de Jacques et Jean, quelques mots rapides sur le contexte. D'une certaine manière, nous sommes en Marc chapitre 10, à la croisée des chemins. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Jésus est maintenant en route vers Jérusalem, et Jésus sait très bien ce qu'il attend à Jérusalem. Le royaume est en marche, Jésus-Christ va vers la croix. Et c'est un moment charnière dans l'évangile de Marc. Jésus s'avance vers la croix. Tout au long de l'évangile de Marc, nous avions noté le secret messianique qui se dévoile petit à petit. Dans la première partie de l'évangile, les 8 premiers chapitres, Jésus donne des signes du royaume de Dieu en paroles et en actes. Or, chose curieuse, à ce moment-là, les seuls à dévoiler l'identité de Jésus, ce sont les démons. Du côté des disciples, en revanche, pas de déclaration de foi, mais une interrogation qui va grandissant. Qui donc est cet homme ? En Marc chapitre 8, verset 29, un tournant, Pierre professe sa foi, « Tu es le Christ ». Mais là encore, Jésus demande le secret. Jésus leur recommanda sévèrement de n'en parler à personne. Il ne suffit pas aux disciples de dire que Jésus est le Christ, le Messie, le roi tant attendu. Mais il leur faut comprendre en quoi consiste la royauté de Jésus. C'est la passion, la mort et la résurrection qui révéleront l'identité véritable de Jésus. Et à partir de la fin du chapitre 8, Jésus annonce clairement sa mort et sa résurrection à venir. Dans ce chapitre 10, c'est la troisième fois que Jésus parle ouvertement de sa mort et de sa résurrection. Versets 33 et 34, « Nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le fouetteront, le feront mourir. Et trois jours après, il ressuscitera. » Nous avons ici, dans notre texte de ce soir, la dernière annonce de sa mort et de sa résurrection avant son arrivée à Jérusalem au chapitre 11. Jésus, tel un roi au-devant de ses troupes, est sur le point d'arriver à Jérusalem. Les disciples, s'ils n'avaient pas encore compris la croix que Jésus annonçait pourtant, avaient compris que l'arrivée à Jérusalem n'était pas anodine. L'arrivée du Messie à Jérusalem, c'est le royaume de Dieu qui fond sur la ville sainte. La réaction des disciples le montre bien. Les disciples étaient effrayés et ceux qui le suivaient étaient dans la crainte. Nous pourrons noter que la traduction ici est un peu maladroite. La réaction des disciples est différente de celle de la foule. Les disciples n'étaient pas seulement effrayés, le verbe grec est plus fort. Ils étaient angoissés et troublés. L'angoisse des disciples fait penser à celle d'un soldat avant la bataille, l'angoisse d'aller au combat. Il n'y a peut-être que les soldats français et allemands lors de la Première Guerre mondiale qui n'ont pas connu cette angoisse. Partant la fleur au fusil, lors de la déclaration de la guerre en août 14, au cri de « à Berlin » pour les Français et à Paris pour les Allemands. Les disciples, eux, étaient angoissés. Parce qu'ils savaient l'importance de cette arrivée à Jérusalem. Le royaume de Dieu est en marche vers la ville sainte. Ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que c'est dans la faiblesse et l'échec apparent de la croix que se manifestera toute la grandeur de l'œuvre de Jésus, le Messie tant attendu. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus. Jacques et Jean sont des prénoms courants au temps de Jésus. Et nous avons dans le Nouveau Testament plusieurs Jacques et plusieurs Jean. Il s'agit ici de l'apôtre Jean, l'auteur de l'Évangile et des épîtres éponymes, et son frère Jacques, lui aussi apôtre. Alors Jacques, lui, n'est pas l'auteur de l'épître de Jacques. Ça, c'est le frère de Jésus qui est l'auteur de cette épître. Il ne s'agit pas non plus de Jacques, fils d'Alphée, dont on entend parler dans le Nouveau Testament. Il s'agit bien ici de l'apôtre Jacques, frère de Jean. Jacques qui sera mis à mort très tôt dans l'histoire de l'Église, par Hérode en Actes chapitre 12. Donc Jacques et Jean, qui sont frères et apôtres. Heureusement que nous n'avons, nous, à l'église de la rue de Sèvres, pas ce genre de problème de confusion avec les prénoms, n'est-ce pas ? Jacques et Jean, deux frères, tous deux apôtres, s'approchèrent de Jésus. Et ils lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Seigneur, donne-nous de pouvoir régner aux places d'honneur. » Donne-nous de régner aux places d'honneur. Cette demande n'est pas sans rappeler celle du chapitre 9, n'est-ce pas ? Alors qu'il redescendait de la montagne après la transfiguration, épisode qui révélait la grandeur et la majesté incomparable de Jésus, les disciples débattaient entre eux pour savoir qui était le plus grand parmi eux. Et notons que c'était déjà Jean qui se targuait d'avoir rabroué quelqu'un qui osait chasser des démons au nom de Jésus sans faire partie de leur cercle de disciples. Jacques et Jean, les fils du tonnerre, comme Jésus les avait surnommés, sont ici fidèles à leur réputation, n'est-ce pas ? Donne-nous de pouvoir régner aux places d'honneur. Une parenthèse rapide mais nécessaire. L'apôtre Jean est connu pour son évangile, pour ses épîtres qui présentent l'amour merveilleux de Jésus. Jean est surnommé l'apôtre de l'amour. Mais c'est plus tard qu'il sera ainsi. C'est plus tard. Dans ces versets, il est bien loin de cela. Il est impétueux, orgueilleux, presque sanguin, fils du tonnerre. Mais sa vie sera transformée par l'amour de Jésus. Ce qui a permis à Jean de devenir l'apôtre de l'amour, c'est ce que Jésus annonce ici, la croix. La croix. La vie de Jean a été transformée radicalement par l'amour de Jésus. La nôtre peut l'être également par la compréhension de l'œuvre de la croix. Dieu peut et va faire de grandes transformations en vous si vous le laissez agir. Si vous regardez à la croix. Seigneur, donne-nous de pouvoir régner aux places d'honneur. Ce n'est pas une surprise si Jacques et Jean font leur demande maintenant. Pour eux, Jésus est sur le point d'établir son royaume. Ils s'imaginaient que Jésus allait venir à Jérusalem, ce qu'il fait, qu'il sera acclamé, ce qu'il sera, qu'il instaurera l'ère messianique, ce qu'il fait d'ailleurs, mais pas comme ils pensaient. Pour Jacques et Jean, Jésus allait venir rassembler son peuple avant de renvoyer les Romains à Rome. Pour eux, la gloire du Messie, c'est l'établissement d'un règne terrestre, un règne où la gloire de Dieu sera rendue visible à Jérusalem. Jacques et Jean ont compris l'importance de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Ils ont mal compris la forme et le fond, mais ils en ont compris l'importance. S'il y a quelque chose à demander à Jésus, c'est maintenant ou jamais. Seigneur, nous qui te suivons depuis le début, donne-nous de régner à tes côtés. Donne-nous de régner à tes côtés. Et si cette demande peut sembler tout aussi à côté de la plaque que celle de Marc chapitre 9, savoir qui était le plus grand, leurs motivations ne sont pas forcément mauvaises. Il n'était pas rare pour des soldats de prêter allégeance au roi avant d'aller au combat et ainsi de s'attirer les faveurs du roi en cas de victoire. Jacques et Jean souhaitent être aux côtés de Jésus. Lors de l'arrivée à Jérusalem, dans la reconquête du pays promis et dans le règne, ils souhaitent être à côté de Jésus. Tout n'est pas mauvais dans leur démarche. Tout n'est pas mauvais. Mais la réponse de Jésus le montre bien, tout n'est pas bon non plus. Nous sommes prêts à te servir, Jésus. Nous sommes prêts à aller au combat avec toi. Nous sommes à tes côtés depuis le début, nous le serons maintenant. En revanche, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. En retour, donne-nous d'être honorés. Donne-nous de pouvoir régner aux places d'honneur. Jacques et Jean souhaitent être grands. Voici ce que nous aimerions que tu fasses pour nous. Nous sommes prêts à aller conquérir Jérusalem. Mais avant cela, nous aimerions savoir ce qu'il en est pour nous. Que recevrons-nous en retour? Je suis prêt à te donner ma vie. Mais je veux que tu reconnaisses mon courage, ma bravoure. Je veux de l'honneur, je veux du prestige, je veux de la gloire. Je suis prêt à tout, Seigneur. Mais qu'en est-il pour moi? Qu'en est-il pour moi? Nos réactions ne sont-elles pas trop souvent similaires? Louons-nous Dieu parce qu'il est Dieu? Ou parce que nous pensons pouvoir mériter quelque chose en retour? Père, je t'ai obéi. J'ai fait ce que tu as demandé. Je suis allé à l'église, j'ai prié. J'ai fait le défi de lecture biblique. Je donne à l'église et aux pauvres. Que vas-tu me donner en retour? Père, je te suis dès la première heure. J'ai obéi. Comment se fait-il qu'aujourd'hui je ne reçoive pas ta bénédiction, mais au contraire l'épreuve et la souffrance? Qu'en est-il pour moi? Qu'en est-il pour moi? Voilà trop souvent ce que nous pensons devant Dieu, n'est-ce pas? Qu'en est-il pour moi? Je suis prêt à t'obéir, mais s'il te plaît, donne-moi d'être grand d'après les critères de notre monde. Donne à mon ministère, donne à mon service d'être admiré et reconnu, que tous sachent qui je suis. Quelles sont nos motivations pour servir Dieu et l'Église? Souhaitons-nous servir Dieu car il est Dieu, ou alors pour recevoir quelque chose en retour de la part de Dieu et des hommes? Si tel est le cas, alors nous ne servons pas vraiment Dieu, mais nous nous servons nous-mêmes. Dans ce cas, le service n'est qu'un investissement et non pas un service. Si nous pensons que l'intensité de notre service et de notre spiritualité doivent impressionner Dieu, alors ce qui nous motive vraiment, c'est notre orgueil. C'est notre orgueil. C'est la même chose que Jésus dira dans le sermon sur la montagne au sujet de la prière. Certains aiment prier, mais seulement pour être vus des autres. Ils donnent l'impression de se soucier de Dieu, mais ne se préoccupent réellement que de leur propre personne. Si ce que nous cherchons est d'être vus de tous, alors nous avons là notre récompense. Mais nous n'aurons rien d'autre. Un chrétien véritable, c'est quelqu'un qui reconnaît la grâce qu'il a déjà reçue en Jésus. Et c'est ce que Cécile nous a rappelé tout à l'heure. Nous avons tout en Jésus. Nous avons tout en Jésus. Jacques et Jean sont prêts à servir Dieu, mais pour de mauvaises raisons. Ils souhaitent la gloire en retour. Ils souhaitent être grands, plus grands que les autres disciples. Leur désir est d'être élevés, d'être grands, supérieurs aux autres. Pas étonnant que les autres disciples s'irritent lorsqu'ils apprennent cela. Après avoir entendu cela, les 10 autres commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Ils ont demandé quoi? Avoir les places d'honneur? Vous n'êtes certainement pas plus grands que nous. Et quant à nous, au moins nous avons eu l'humilité de ne pas demander une telle chose. Sous-entendu, cela montre que nous sommes bien plus grands que vous, puisque nous sommes bien plus modestes que vous. La réaction des autres disciples n'est intrinsèquement pas meilleure que celle de Jacques et Jean. Tous souhaitent être les meilleurs, les plus méritants aux yeux de Jésus. Tous souhaitent être grands aux yeux du monde. Vous voulez être les plus grands, les premiers? Alors soyez les plus petits, soyez les derniers, dit Jésus. Soyez les derniers. Relisons les versets 42 à 45. Jésus les appela et leur dit: « Vous savez que ceux que l'on considère comme les chefs des nations dominent sur elles, et que leurs grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce n'est pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Notre monde considère grands ceux qui détiennent le pouvoir, ceux qui dominent sur les autres. Ça ne doit être le cas parmi vous, nous dit Jésus. Vous voulez être grand? Alors soyez serviteurs, soyez esclaves des autres. Pour être grand à mes yeux et aux yeux de mon Père, il faut se mettre au service de son prochain. Il faut se mettre au service de son prochain. Jésus rappelle ici ce qu'il a déjà annoncé en Marc chapitre 9, verset 35. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Cette vérité, Jésus l'a déjà annoncée. Les disciples ont déjà écouté cela, mais ils ne l'ont pas entendu. Et comme les disciples, peut-être l'avons-nous déjà entendu, mais pas encore compris. Permettez-moi de répéter. Vous voulez savoir qui est le plus grand? Ce sera celui qui sera au service de tous. Le plus grand sera le plus serviable. Le plus grand, c'est celui qui arrivera à mettre son orgueil de côté et prendre en compte le besoin de son prochain. La sagesse du monde cherche à nous faire croire que pour être grand, il faut être servi. Mais moi, je vous dis, nous dit Jésus, et nous voyons là toute la sagesse de Dieu, que pour être grand, il faut vous faire petit et vous mettre au service du prochain. Voilà toute la sagesse de Dieu. Folie aux yeux du monde. Folie aux yeux du monde. Mais sagesse merveilleuse de Dieu. Et c'est là une notion sur laquelle nous réfléchissons depuis un moment dans le cadre des ateliers bibliques. Sur la première épître de Paul aux Corinthiens, j'aimerais vous lire 1 Corinthiens chapitre 1er, versets 27 à 31. Je vous invite à écouter cette lecture. « Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Où mettons-nous notre fierté ? Le plus grand, nous dit Jésus, c'est celui qui arrivera à mettre son orgueil de côté et prendre en compte le besoin de son prochain. Si quelqu'un veut être le premier de tous, verset 44, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. C'est dans cet état d'esprit que je suis venu parmi vous, dit Jésus. C'est cet état d'esprit qu'il vous faut avoir. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Le plus grand parmi vous, c'est celui qui suivra mon exemple, dit Jésus. Je suis venu non pas pour moi, mais pour vous. Je suis venu parce que je cherche votre intérêt avant le mien. Jésus avait tout intérêt de rester auprès du Père et laisser l'humanité sans espoir. Il avait tout à perdre de venir sur terre. Plus encore, il savait qu'il allait tout perdre. Il a accepté de tout perdre pour nous servir, pour notre bien, pour nous gagner à lui. Jésus n'a pas regardé à sa personne, mais à nous. Lui qui était à la droite de Dieu, lui dont l'honneur et la majesté dépassent de loin celle de Moïse et Élie, s'est fait homme parce qu'il avait mis notre intérêt avant le sien. Il avait mis notre intérêt avant le sien. Et il savait ce que cela impliquerait pour lui. Versets 33 et 34. Nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le fouetteront, le feront mourir. Jésus savait ce que cela représentait pour lui que de nous faire passer nous avant sa personne. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le fouetteront, le feront mourir. Jésus ici fait une allusion claire au cantique du serviteur souffrant. Entre Ésaïe chapitre 42 et 53 sont présentées la personne et l'œuvre d'un serviteur souffrant qui viendra pour sauver son peuple. Et je vous invite à écouter ces quelques extraits de ces cantiques. Ésaïe 50, verset 6. « J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. » Ésaïe 53, verset 3. « Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. » Ésaïe 53, verset 7 et 8. « Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. » Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de lui quand il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? Ils se moqueront de moi, ils me cracheront dessus, me frapperont, me crucifieront et me tueront. Voilà le prix de mon amour pour vous. Je dois passer par là pour votre bien. Voilà le prix de mon amour. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? C'est le verset 38. La coupe dans l'Ancien Testament représente le jugement de Dieu, sa colère contre le péché et l'injustice. Boire la coupe, c'est prendre sur lui la colère de Dieu son Père. Je suis venu vous servir. Je suis venu faire passer votre intérêt avant le mien. Je vais prendre sur moi la colère de Dieu contre votre péché. Je suis venu pour votre bien. Pouvez-vous être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Ce baptême ici représente la mort. Voici comment la Bible de Summer, version d'étude, explique ce point bien mieux que je ne pourrais le faire. Jésus avait compris que le baptême de Jean, dans lequel les Juifs avaient déposé symboliquement leurs péchés au fond de l'eau, annonçait pour lui un autre baptême, sa mort. Car il avait pris sur lui, lors de son baptême, les péchés que ses compatriotes avaient déposés dans l'eau. Mon baptême, c'est ma mort pour mon peuple. Jésus sera submergé par les flots de la mort pour nous permettre d'arriver dans la terre promise. Jésus passera par le déluge de la mort et de la colère de Dieu pour nous permettre d'accéder à la terre renouvelée par la présence de Dieu. Je vais mourir pour les péchés de mon peuple. Je vais donner ma vie en rançon. Et Jésus utilise ici ce mot rançon, un mot qui renvoie à tant de choses dans l'Ancien Testament, ce mot qui était utilisé pour parler de la rédemption, du rachat, ce mot qui était utilisé pour décrire le rachat de sa liberté par un serviteur. Je suis venu racheter votre vie. Par ma mort, je vais racheter votre vie. Le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Pour beaucoup. Ce n'est pas une coïncidence si Jésus ici y rajoute « pour beaucoup ». Ici, Jésus, une nouvelle fois, cite les cantiques du serviteur souffrant. Il cite Ésaïe 53, le dernier cantique du serviteur souffrant. Dans un passage merveilleux dans ce cantique, il est annoncé que le Messie sera frappé, humilié, traité comme un coupable, percé pour les péchés de son peuple. Mais termine avec la raison de cette souffrance et de cette mort. Le serviteur souffrant accomplira cela pour beaucoup. Ésaïe 53, versets 10 à 12. Il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leur faute. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Ces versets sont merveilleux. Est présentée ici la raison de la souffrance et de la mort du Messie. Il le fait par amour pour nous. Il a cherché notre intérêt et non le sien. Vous voulez être grand dans le royaume de Dieu? Il vous faut suivre mon exemple, nous dit Jésus. Il faut suivre mon exemple. C'est ce qu'annonce Jésus ici, c'est ce que rappellera l'apôtre Paul aux Philippiens, Philippiens 2, versets 5 à 7, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui était de condition divine, il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Mes frères, mes sœurs, vous voulez être grand parmi les hommes ? alors suivant l'exemple de Christ et en vous laissant transformer par son service à votre égard, mettez-vous au service de votre prochain. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous donne d'avoir à cœur de l'appliquer. Amen.